www.radio-g.fr.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi ? 101.5 ?
Tout de suite, une découverte musicale, c'est Western Baklava, qui fait du Balkan Roll. C'est un groupe d'Angers et des alentours, avec une pincée d'Elvis en caravane, un soupçon de Django en Santiago et des cow-boys rempailleurs de chaises pour un voyage endiablé d'est en ouest. Voilà, donc quatre musiciens, avec de la musique zigane, des chants slaves, agrémentés de sonorités résolument rock'n'roll. On écoute ça tout de suite sur Radio G dans Bande Geek Mafia. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook, Western Baklava.
On est confinés, mon cousin, mais on lâche rien. Yes, douille, yes, douille, tri, star.
Guys, un grand plaisir de vous retrouver ici, en direct de Casablanca, au Maroc. En ces temps de confinement, un petit podcast, ou plutôt un petit conte de Michel Serres. Un match de football sur une île du Pacifique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de la bataille du Pacifique, un navire de guerre américain est attaqué par l'ennemi. Il s'échoue sur une île inconnue. L'équipage survivant est accueilli par les habitants de cette île, dont la civilisation est restée proche de l'état de nature. Les rescapés, pour ne pas s'ennuyer, apprennent à leurs hôtes à jouer au football. Quelque temps après, un porte-avions américain revient chercher les survivants, qui retournent se battre jusqu'à la fin de la guerre. Parmi eux, certains décident de retourner sur cette île, où ils avaient connu le bonheur. Après la joie des retrouvailles, ils sont invités à assister à un match de football. La rencontre oppose l'équipe de l'Est à celle de l'Ouest. Deux villes de l'île, superbes, dramatiques, élégantes, elles s'achèvent sur les résultats de 3-1. Au bout de 90 minutes, bien sûr. Les matelots se lèvent alors pour quitter le spectacle et rentrent dormir. C'était le soir. Mais non, clame la foule qui les fait rasseoir. Mais non, ce n'est pas fini, mais non. Ils ne comprennent rien, mais ils se rassoient.
Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado, la va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerlo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa, tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima. Va tocando la pelota por el costado para Cristo Müller. Cristo Müller se acerca al área, la va dejando para Filippo El Solal. Filippo El toca para Eduardo Macaró. Está frente al arquero, va a tirar de ojo.
La partie reprend de plus belle et, sous des torches vives, se prolonge la nuit. Le temps passe et les anciens matelots ne comprennent plus. Exténués, hors de souffle, les joueurs tombent les uns après les autres, les jambes dévorées de crampes. Mais, têtu, la rencontre continue. Chaque équipe marque et, vers les petites heures de l'aube, on en est à 8 à 7. Cela devient ennuyeux. Tout à coup, la population se lève, agite bras et mains, hurle sa joie. Tout prend fin. Le but de l'égalisation vient d'être tiré à bout portant par un avant qu'on avait oublié et qu'on porte en triomphe autour du terrain. Chacun crie 8 à 8, 8 à 8, 8 à 8. Ensommeillé, abasourdi, incapable de saisir clairement l'événement, les matelots regagnent en hâte leur case pour se coucher. Quelques heures après, les palabres vont leur train. Stratégie, tournoi, résultat. On reprend les conversations d'autrefois. Et peu à peu, la vérité se fait jour. Les naturels ou insulaires jouaient au même jeu que naguère, avec des équipes comprenant le même nombre d'hommes sur des terrains de même forme, mais ils avaient changé une règle. Une seule petite règle. Écoutons voir leur conversation. Une partie s'achève quand une équipe gagne et que l'autre perd. Et seulement dans ce cas-là, disent les marins. Il faut un vainqueur et un vaincu. Non, non, pas du tout, prétendent les insulaires. Comment départager alors vos équipes, demandent les matelots. Que signifie ce mot dans votre dialecte? Demandent les insulaires. Une différence de but, disent les marines. Nous ne comprenons pas vos idées. Quand vous découpez une galette, selon le nombre de ceux qui sont assis autour du four, ne la partagez-vous pas? Certes, c'est ce que nous faisons, répondent les marines. Et chacun en mange une partie, n'est-ce pas? Sûrement, c'est vrai. Cette galette, avez-vous jamais l'idée de la départager? Cela ne voudrait rien dire, protestent les marins. Non, c'est sûr, ça voudrait rien dire, disent les marines. Mais si, vous la départagez, comme au football, quelqu'un la mangera tout entière et les autres ne mangeront rien. Les visages pâles, interloqués, se taisent. Pourquoi les équipes se départageraient-elles? Silence des marins américains. Nous ne comprenons pas cela, qui n'est ni juste ni humain, puisque l'un l'emporte sur l'autre. Alors, nous jouons le temps du jeu que vous nous avez appris. Si à la fin le résultat se trouve nul, la partie s'achève sur le vrai partage. Les Marines américains écoutent en silence. Selon les deux équipes,
comme vous le dites, si elles sont départagées, chose injuste et barbare, à quoi bon humilier des vaincus si l'on veut passer comme vous pour civiliser? Dans les vents qui les ramenaient vers leur ville et leur famille, parmi le balancement de la houle, en quittant cette terre singulière, cette île du Pacifique, absente des cartes marines, deux marins, John et Mike, palabrés dans leur hamac, couchés, les mains sous la nuque. John demande à Mike, « Dis Mike, la dernière guerre, nous l'avons gagnée, n'est-ce pas ?» Mike de répondre, « Ben ouais mec, c'est sûr. » John, « on l'a gagnée à Hiroshima ?» Silence gêné de Mike. Tu veux dire qu'on l'a vraiment gagné ? Michel Serre, Le Tiers Instruit, 1991. Quelques questions pour vous, mes amis, afin de prolonger la réflexion à partir de ce conte. Qu'est-ce que partager ? Partageons-nous à parts égales, c'est-à-dire à chacun la même chose ? Ou partageons-nous de façon équitable, à chacun selon ses besoins ou à chacun selon son mérite? Et pouvons-nous donner sans rien attendre en retour? Une dernière série de questions pour vous. Dites-moi, quel est votre principe de justice dans l'échange? Et qu'échange-t-on quand on échange? Merci à toutes et tous.
Et maintenant, je vous propose d'écouter Mathias. Mathias fait une reprise tous les jours depuis le début du confinement. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. On mettra le lien sur la page Facebook de Bande Geek Mafia. Donc aujourd'hui, Something des Beatles.
Radio G.
101.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une deuxième chronique réalisée en confinement. J'ai l'habitude de vous parler de mes coups de cœur lecture, mais cette semaine, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur quelques revues que j'ai pris plaisir à lire ces dernières semaines, en commençant ce soir par une revue de presse consacrée à trois titres jeunesse qui proposent une sélection d'articles vous permettant de sortir de cette actualité particulièrement morose pour vous évader ou assouvir votre soif de curiosité. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le dernier numéro hors série de Science et Vie Junior qui consacre plusieurs de ses pages à 40 questions de science qui ne sont pas si absurdes. Vous ignoriez jusqu'à présent que l'on pouvait cuire un poulet en lui mettant une claque, qu'il était possible de construire un ordinateur en bois, ou encore, et là je pense très fort à mes petits camarades de jeu Héloïse, les deux Seb, Adrien et Olivier, que la bière existait il y a 13 000 ans et que sa consommation a peut-être conduit à l'invention de l'agriculture, eh bien, vous apprendrez tout cela et bien d'autres choses encore en lisant le hors-série numéro 141 de Science et Vie Junior. Comme nous sommes dans Bangeek Mafia, je vous invite particulièrement à lire l'article intitulé « L'ASF délire-t-elle vraiment ?» L'équipe de Science et Vie Junior a passé à la loupe 8 délires de SF et de fantasy pour savoir si nous aurions la chance ou pas de les voir se concrétiser. On y apprend donc qu'il est possible de faire léviter des objets. La lévitation correspond au béaba de la magie. C'est un sort élémentaire pour n'importe quel apprenti sorcier en première année de la fameuse école Poudlard. Mais brandir une baguette magique en prononçant la formule Wingardium Leviosa n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous contenter de faire du bruit. Il est en effet possible d'utiliser le son pour faire flotter un objet dans les airs. C'est ce qu'on appelle la lévitation acoustique.
One of a wizard's most rudimentary skills is levitation, or the ability to make objects fly. Do you all have your feathers? Good. Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing. The swish and flick. Everyone? The swish and flick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go then.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Science et Vie Junior revient également sur le long hiver présent dans la série Game of Thrones. L'idée d'hiver à rallonge ne serait, selon la revue, pas si délirant. Attention, winter is coming.
But winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone.
On apprend aussi que la stratégie de Thanos pour sauver la planète serait un gros raté, que les Ents, ces arbres marcheurs dans la Seigneur des Anneaux, n'existent que dans l'imagination des écrivains de fantasy, et qu'avoir un dragon de compagnie n'est vraiment pas la meilleure idée à avoir. Pour finir, vous retrouverez aussi dans ce numéro des films d'animation à découvrir ou revoir pour vous plonger dans l'univers steampunk. Ce sous-genre de la science-fiction qui fait la part belle à la période industrielle du 19e siècle et qui nous plonge dans les mondes animés par la technologie des machines à vapeur. Science et Vie Junior, et je me joins à eux, vous conseille le film Le Château Ambulant de Hayao Miyazaki, qui est une petite pépite, un sommet de la poésie réalisé par le maître des animés japonais. Je poursuis mon petit tour de la presse jeunesse avec le magazine Phosphore du 1er mai qui propose notamment un reportage sur la biodiversité qui met en lumière l'action de lycéens dans leur établissement avant le confinement, mais aussi une BD réalisée à l'occasion du 75e anniversaire du 8 mai 1945 qui nous raconte l'histoire de Pierre qui était à la fois lycéen et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'arrête ce soir aussi sur quelques brèves qui ont retenu mon attention dans ce numéro. Phosphore revient sur le défi lancé sur Twitter par la dessinatrice des culottés, que je vous recommande d'ailleurs, et le designer de jeux vidéo Oscar Barda. Le défi hashtag Corona Maison consiste à dessiner son endroit de quarantaine idéal. Le dessin original représente une grande pièce vide afin de laisser place à l'imaginaire. Les créatifs de Twitter s'en donnent à cœur joie pour illustrer leur propre espace détente, de l'appartement hyper réaliste aux créations plus fantaisistes avec piscine, jardin ou aquarium. Ces Corona Maisons reflètent la personnalité de leurs créateurs. En bref, on peut totalement dire qu'il s'agit là d'un cadavre exquis géant. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de répondre avec votre dessin au tweet de Pénélope Bagieu. Le magazine nous présente également dans ses premières pages consacrées aux bonnes nouvelles une chaîne YouTube lancée par une jeune bruxelloise afin, je cite, « de prouver à tous ceux qui lui répétaient que l'art contemporain c'était nul, qu'ils avaient tort ». Dans sa chaîne aux 43 000 abonnés, intitulée « Art contemporain », Laure aborde ses sujets avec humour. Elle peut à la fois présenter des artistes, comme la star du street art Banksy, traiter de sujets comme l'homosexualité dans l'art, ou proposer des décryptages, comme celui réalisé sur le clip de Beyoncé et Jay-Z, filmé au Louvre. Pour finir, cette revue de presse ciblée, je vous propose de découvrir un magazine peu connu que j'avais déjà eu l'occasion de présenter dans Mangeek Mafia. Il s'agit de Kesako Mundi, un mensuel consacré aux questions de société et qui s'adresse donc aux jeunes, plutôt fin de collège, lycée. Je le trouve assez bien fait, les articles sont clairs, présentés simplement pour que les jeunes s'informent tout en acquérant des repères afin de mieux comprendre les enjeux des grands thèmes de société qui déchaînent les passions et les médias. Je vous invite particulièrement à lire l'article consacré à la publicité et aux stéréotypes sexistes, mais aussi celui qui propose une définition du fact-checking et qui donne des outils permettant de vérifier facilement les informations qui circulent sur le web. J'en profite pour vous inviter à regarder les vidéos d'Oh My Fake diffusées sur YouTube ou d'autres médias sociaux. Oh My Fake est un programme proposé par 20 minutes. On y retrouve de courtes vidéos pour décrypter les fake news. Give me one, give me two, give me vibes and you like this. Mauvaise nouvelle, je n'entends des fausses nouvelles, mais fait. Mauvaise nouvelle, je n'entends des fausses nouvelles. Give me sound, give me vibes. A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news. Wow, pourquoi fait-il chaud? Pur de rester sceptique quand on bronze l'hiver à Oslo. We don't know, y a-t-il un complot? Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Wow, même ces dessins là-haut m'ont filé la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. We don't know, que ça soit vrai ou faux. Coute bien la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots. Tell me now, a-t-on touché la lune qui détient les fortunes et qui manie la plume pour nous le raconter? Qui devrait faire la une qui détient les tribunes, qui profite des lacunes pour tout réinventer?
Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage, du fromage. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel.
Bonjour à tous, une rubrique bande dessinée un petit peu particulière puisque c'est une rubrique confinée. On tient bon, On tient bon en faisant quoi ? Eh bien, en lisant de la BD et en écoutant de la musique, ce qui est un peu mon cas. Alors, première bande dessinée que j'ai découvert avant, justement, la fermeture des sorties possibles, eh bien, de Ducoudray et Harris, Lucienne ou les millionnaires de la Rondière, aux éditions Grand Angle. Alors, nous sommes cette fois-ci partis dans une campagne, dans la campagne, et nous allons suivre deux sexagénaires campagnards qui vivent dans un petit village qui s'appelle Lucienne et Georges, le petit village de la Rondière, où Georges passe son temps à réparer son infatigable tracteur, et Lucienne, eh bien elle, essaye de s'occuper avec les tâches quotidiennes pour pouvoir apaiser, et là c'est la partie la plus triste de l'histoire, pour apaiser un peu le deuil de son unique fils, en essayant à la fois de parrainer des enfants défavorisés dans le monde entier, et puis en essayant de trouver un petit peu de quoi s'occuper. Et au final, leur vie très bien réglée, routinière, va se trouver bouleversée par l'arrivée du facteur qui va amener à Lucienne une lettre qui lui annonce qu'elle est la grande gagnante du jeu concours des magasins. Bip, je vais pas dire parce qu'autrement je ferai de la publicité des magasins, donc bip bip, et qui va donc bouleverser sa vie. Effectivement, pensez donc, elle risque de gagner, elle va gagner, elle a gagné peut-être le premier prix de 200 000 euros. Elle va enfin avoir de quoi parrainer tous les enfants nécessiteux de la terre, le rêve absolu pour elle. Et donc du coup, on va suivre tout au long de cette bande dessinée, eh bien, le rêve de Lucienne qui va prendre corps à un moment ou à un autre. Alors, voilà, c'est une histoire qui est très gentillette, qui est très très bien menée, qui finalement on passe un bon moment. Graphiquement, c'est très agréable à lire aussi en même temps. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que l'auteur, à la fin, Aurélien donc Ducoudray, eh bien, a une petite phrase qui est assez magique. Il dit tout simplement, dans cette histoire, tout est vrai. Tout est vrai, sauf l'histoire. Donc, du coup, on est un petit peu surpris. Qu'est-ce qui est faux ? Bien sûr, l'histoire en elle-même est complètement fausse. Ce qui est vrai, ce sont les personnages. Ces personnages qui sont vraiment des personnages du réel que l'auteur a croisé à un moment ou un autre de sa vie. Et puis, vous apprendrez plein de choses en lisant le petit cahier graphique qui accompagne, justement, le petit cahier d'explication qui accompagne cette bande dessinée. Alors donc, je vous redis le titre, c'est Lucienne ou les millionnaires de la Rondière, aux éditions Grand Angle, du Ducoudray et Harris. Donc ça, c'est la première petite découverte assez sympathique. Deuxième découverte, et bien là, cette fois-ci, nous partons dans un univers complètement différent. C'est l'univers steampunk que nous proposent Pevel et Willem, avec cette série qui va être composée de trois bandes dessinées qui s'appellent Les Artilleuses. Donc là, nous avons donc le premier, le tome 1 de cette trilogie, Le vol de la Sagillaire. Et là, nous partons dans le Paris du début du XXe siècle. Nous sommes exactement en 1911, dans le Paris, mais le Paris des merveilles, où vivent à la fois des fées, des enchanteurs, des gnomes et même quelques dragons. Et donc, nous avons un groupe cambrioleuses qui s'appellent les Artilleuses, qui sont en train de préparer et qui vont faire leur dernier coup, le vol d'une mystérieuse relique, la Sagillaire. Et malheureusement, tout ne va pas se passer exactement comme elles avaient prévu, puisque du coup, nos trois héroïnes, qui sont Lady Remington, Miss Winchester et Mamselle Gatling, vont se retrouver pourchassées non seulement par les Brigades du Tigre, et oui, 1911 oblige, mais également par les redoutables services secrets du Kaiser. Et donc là, maintenant, on attend avec impatience le tome 2 pour connaître la suite de cette aventure qui est extrêmement agréable à lire, à voir graphiquement. Donc c'est bien mené, donc on attend avec impatience le tome 2. Donc Pevel et Willem, Les Artilleuses, le vol de la Sagillaire, aux éditions Draco. Et puis enfin, le sport, eh bien, si on ne peut pas en faire complètement, on peut au moins lire des bandes dessinées qui ont attrait au sport. Et une série que j'apprécie particulièrement, c'est la série Les Rugbymen. Là, nous propose cette fois-ci un nouveau tome mais un nouveau tome qui va mettre en avant finalement d'autres personnages que nos rugbyman préférés, puisque cette fois-ci nous partons dans le monde du rugby féminin. Et oui, effectivement, on n'est pas sans savoir quand même que l'équipe de France féminine occupe la 4e place au classement des équipes de rugby. Donc du coup, suivant un petit peu cette montée en puissance du rugby féminin, eh bien les rugbymen se sont adaptés avec ce 18e opus. Mais un opus avec un titre provocateur, puisque effectivement le titre c'est le rugby, un sport de gonzesse. Donc là vous voyez, on aime bien être dans la provoque. Et donc du coup on va découvrir l'équipe féminine de Paillard, hein, le Paillard Club féminin, qui va nous amener des personnages que l'on va reconnaître hein, finalement dans les traits de caractère. C'est exactement les mêmes traits de caractère que l'équipe masculine. Et donc du coup, on passe un excellent moment aussi avec cette bande dessinée, les Rugbymen, de Becca et Poupard, enfin, aux éditions Bambou, justement. Donc voilà. Donc je vous rappelle les trois bandes dessinées que je vous conseille pour passer un bon moment. Donc les Rugbymen, hein, le tome 18 de Becca et Poupard aux éditions Bambou. Les Artilleuses de Péven et Willem, le vol de la Sagillaire aux éditions Draco. Et puis quelque chose de beaucoup plus frais quand même, de Ducoudray et Harris, Lucienne ou les Millionnaires de la Rondière. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai diverti pendant un petit moment, que je vous ai donné envie de lire ces bandes dessinées, ou du moins de lire un petit peu. Mais surtout, pensez à une chose, il faut tenir bon, c'est important, et écoutez Radio G, Radio G 101.5, la radio qui fait le point. Merci beaucoup, et portez-vous bien. Au revoir, à bientôt. Creature Shock Radio
FM. Ce soir, je voudrais vous parler d'une bande dessinée, que j'ai découverte récemment, c'est Bug de Enki Bilal. Alors bug, en français, ça se dit d'un défaut qui affecte un programme informatique, un bug, mais en anglais aussi c'est un insecte, une bestiole, voire un virus. Et on est en 2041, la Terre est confrontée brutalement et simultanément aux deux, un bug informatique et un virus, un insecte. Et il y a un homme qui est seul, qui se retrouve dans la tourmente et qui est convoité par tous les autres. Donc on est dans un avenir proche, et en une fraction de seconde, le monde numérique disparaît, comme aspiré par une force indicible. Donc, je le disais, un homme seul, et malgré lui, se retrouve dans une tourmente planétaire. Après avoir traité de sujets politiques, géopolitiques, dans les phalanges de l'Ordre Noir, partie de chasse avec Christin, de destins dictatoriaux et de rêves d'immortalité, dans la trilogie Nicopole, de cauchemars obscurantistes prémonitoires, dans le cycle du monstre, de planètes recadrant les humains, dans la trilogie du coup de sang, Enki Bilal nous prive de notre addiction digitale en nous plongeant, non sans une certaine dérision, dans un monde de désarroi et d'enjeux multipolaires. Fidèle à son image d'inventeur de futur au bord du chaos, Enki Bilal fait de Bug sa nouvelle trilogie dans le genre, anticipant un avenir pas si lointain où une catastrophe écologique se doublerait d'un crash informatique à grande échelle. Il nous fait suivre l'histoire d'un héros traqué par des organisations qui le dépassent. Entrecoupé de quelques respirations humoristiques bienvenues, cette dystopie aux allures de messages d'avertissement voit l'auteur de Nicopole continuer d'exceller à peindre de noirs horizons. Voilà, c'est du grand Enki Bilal. C'est vrai que je suis assez fan depuis longtemps, mais là, il est au top. Il est au top avec ce nouvel album. C'est une lecture très très intéressante à faire maintenant, parce que ça fait écho avec la situation actuelle, la situation qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre et qu'on va continuer à vivre encore quelques temps à cause du confinement. Voilà, donc Bug de Enki Bilal, c'est aux éditions Casterman et c'est une trilogie. Pour l'instant, les tomes 1 et 2 sont sortis. Et comme dit Enki Bilal, c'est le destin des hommes de ne pas savoir changer.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la sortie de mon jeu vidéo préféré en ces temps de confinement. Je veux bien sûr parler d'Animal Crossing New Horizons qui est sorti le 20 mars 2020 sur la Nintendo Switch. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir s'exiler sur une île déserte, loin de l'agitation et des problèmes pour s'offrir la chance de tout recommencer? C'est la promesse que Nintendo nous fait avec Animal Crossing New Horizons. Fini le petit village en bord de mer, vous voilà désormais l'un des premiers à fouler le sable de ce qui sera bientôt votre île. Et pour ce nouvel opus, l'accent a été mis sur la personnalisation avec notamment l'apparition du crafting, qui nous permet de construire ses propres meubles avec les ressources que l'on trouve dans le jeu, et du terraforming, qui est la capacité à modeler le terrain. L'autre nouveauté qui vient bouleverser un tant soit peu le rythme du jeu, c'est l'arrivée des objectifs. Au départ, Animal Crossing, c'est une série de jeux vidéo de gestion, développée par Nintendo, dans laquelle le joueur emménage dans un village habité par des animaux anthropomorphes et où diverses activités sont proposées. La série est notable pour son gameplay de type sandbox, c'est-à-dire qui fait principalement appel à la curiosité et à la créativité du joueur, le tout avec ou sans objectif prédéfini, et pour son utilisation étendue de l'horloge et du calendrier de la console, qui simule un déroulement en temps réel. D'où l'apparition du lapin de Pâques et la floraison des cerisiers lors des festivités du mois d'avril par exemple. Pour beaucoup d'adeptes, Animal Crossing y fait office de refuge, voire de petit coin de paradis où il fait bon vivre parsemé de bienveillance. Sans aucune pression, vous pouvez faire ami-ami avec vos voisins et voisines, contracter des prêts immobiliers à taux zéro et sans date d'échéance, pêcher, jardiner, partir à la chasse aux insectes ou déterrer des fossiles en toute insouciance pour aider le musée à agrandir sa collection. Ça, c'est un peu le topo de chacun des épisodes sortis, avec à chaque fois une petite nouveauté. Et New Horizons y reprend grosso modo l'esprit de la série, mais bouscule progressivement le jeu avec quelques nouveautés. Vous vous retrouvez cette fois sur une île presque vierge, et en tant que délégué insulaire, vous avez la tâche de donner vie et rendre le plus attractif possible ce petit lopin de terre afin d'attirer un maximum de voyageurs. Comme dans le précédent volet, vous gérez les constructions et participez au développement des boutiques. Voilà la proposition, libre à vous d'y répondre ou de faire votre vie de votre côté tranquillement. Nul doute qu'il s'agit là d'un bon investissement pour occuper les longues semaines à venir. La multitude de choses à faire et encore à découvrir avec les futures mises à jour, le système d'objectifs et la possibilité de modifier chaque recoin de son île devraient enthousiasmer les fidèles, comme moi, et peut-être convaincre les autres sensibles au crafting. Et pour résumer, le plus brièvement possible, la série, elle a su évoluer sans trahir l'esprit des précédents volets, couler des jours paisibles et faire ce qu'il nous plaît sans pression. New Horizons, c'est la bouffée d'air frais qu'il nous fallait. Du coup, je ne peux que vous le conseiller, achetez une Switch et jouez, parce que vous avez du temps, donc profitez-en. Prenez soin de vous et à bientôt. Creature Shock Radio FM.
Je vous propose maintenant de parler d'Assassin's Creed Valhalla, le futur Assassin's Creed qui va nous emmener à l'époque des Vikings. Alors, petite revue de ce que l'on sait grâce à la sortie du trailer et la manière dont ça a été, dont le jeu a été annoncé. Pardon. Alors, Ubisoft nous a vraiment régalé avec un live sur Twitch, YouTube et compagnie, où on voyait le super designer, le super graphiste Boss Logic en train de réaliser un artwork pour le jeu qui était vraiment magnifique. On y voit un assassin, en tout cas un viking, équipé en... Bah, équipé avec tout le matériel qu'il faut pour un viking, hein, peau de bête, hache et compagnie, avec en arrière-plan deux paysages bien différents. On a d'un côté gauche en bleu tout l'univers qui va nous rappeler donc la Norvège avec les fameux drakkars et également l'oiseau qui accompagne sous forme de drone, hein, en général dans le jeu, le héros. Et là, ce coup-ci, ce sera pas un aigle, hein. On avait connu Icaros avec Assassin's Creed Odyssey. Là, il s'agira plus probablement et plus logiquement pour les vikings d'un corbeau, hein, puisque c'est ce qui se rapporte aussi à Odin. Alors, on a aussi d'autres informations. On se doute que ça va se passer donc au 9e siècle. Hein, ça a été annoncé par Ubisoft sur leur page officielle. Et ça là, va nous emmener pour les invasions vikings en Angleterre. Hein, ils vont aller combattre les Saxons. Les Anglais, les Saxons, les Anglo-Saxons. Ouais. On va donc avoir en Angleterre plusieurs choses. Alors le jeu, d'après ce que l'on en sait actuellement, va nous faire construire un village, finalement, nous implanter en Angleterre et défendre ce village tout en tentant d'unifier finalement les différents petits royaumes qui se guerroyaient entre eux en Angleterre de l'époque. On se situe historiquement à la chute de l'Empire carolingien. Sur le continent, l'Empire de Charlemagne s'est disloqué, hein, avec notamment la Francie occidentale la plus à l'ouest qui donnera la future France, et pour les autres pays qui donneront plus tard l'Empire romain germanique. Donc on a vraiment potentiellement des choses très très sympas, d'autant qu'on sait qu'il sera possible de mener des raids comme à l'époque des Vikings. Alors si vous, en plus, vous êtes fan de la série Viking ou de la série The Last Kingdom, vous devriez vous régaler vraiment avec ce prochain opus d'Assassin's Creed. Sur le héros lui-même, on sait qu'il va s'appeler Eivor. Alors a priori, Eivor, en nordique, hein, en viking de l'époque, n'est-ce pas, c'était un prénom féminin. Alors est-ce à dire que le héros va être féminin? On ne sait pas, puisque le artwork nous présente un personnage pour le moins barbu. Également dans le trailer cinématographique qui a été révélé, le héros semble être un homme. Alors, beaucoup de questions. Est-ce qu'on va avoir possibilité, indifféremment, de jouer un homme ou une femme en créant son personnage? Ou bien est-ce que Ubisoft va nous faire choisir l'un ou l'autre? A priori, d'après leur site, il s'agirait quand même plutôt, finalement, au début je pensais pas, mais finalement si, on va avoir possibilité de créer le sexe de son personnage. Et le prénom d'Eivor aurait été choisi pour coller aussi bien un homme qu'une femme, et ils se sont pas trop arrêtés au fait de lier le prénom à un sexe. On apprend également avec les différentes éditions, les différentes informations qu'on a eues sur le site d'Ubisoft, et notamment sur le store et sur les éditions collector, le détail qu'ils mettent dans les images, etc., que la carte, en fait, du jeu se situerait, en fait, essentiellement pour la grande majorité du temps en Angleterre et pas tant que ça en Norvège. C'est-à-dire que l'artwork de révélation que nous avait fait Boss Logic nous préfigurait deux cartes, une en Norvège et une en Angleterre. A priori, non, ce sera essentiellement du coup en Angleterre. Alors, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de commentaires sur le fait que les Vikings, c'était pas vraiment raccord avec l'idée des assassins. Hein. Je vous rappelle leur doctrine, quand même, rien n'est vrai, tout est permis, et puis surtout, nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Sauf que les Vikings, ils sont plutôt du genre à faire des raids toutes hache dehors, à prendre par surprise certes leurs ennemis, mais à le faire vraiment au grand jour. Donc, effectivement, pour des assassins, le côté infiltration va pas forcément être au rendez-vous. En tout cas, on attend de voir des vidéos de gameplay. On sait rien, on va pas critiquer le jeu avant qu'il soit sorti, mais il y a certains fans qui expriment déjà leur désappointement quant au fait qu'on imagine mal des Vikings en mode infiltration. Ou faire des assassinats, ce genre de choses. Alors par contre, on a le retour, après Assassin's Creed Odyssey, de la fameuse lame secrète. On la voit donc au poignet gauche de notre héros. Alors elle est placée sur le dessus de l'avant-bras, hein, pas comme avec Ezio, Altaïr, ou nos anciens héros jusqu'à Assassin's Creed 3, ou même Black Flag avec Edward Kenway. Là, elle est placée sur le dessus, hein, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed Odyssey, elle est placée de la même manière que Darius. Voilà, donc on va voir. Moi, je suis quand même très, très, très impatient. Ils m'ont vraiment mis la hype avec ce trailer. Ne serait-ce que pour... alors, comme d'habitude avec Assassin's Creed, hein, la beauté de la reconstitution historique et des paysages. Maintenant, j'attends vraiment de voir si on va pas simplement être dans un RPG viking. J'attends vraiment qu'ils nous remettent du lore Assassin's Creed, qu'on en apprenne encore plus sur les Issus, sur la première civilisation, sur ce qui va préfigurer la lutte avec les futurs Templiers, hein, puisque je rappelle qu'au 9e siècle, ils ne sont pas encore apparus. Donc voilà. Un gros hype sur ce jeu que je vais évidemment jouer et auquel je vous ferai et je ne manquerai pas évidemment de vous faire des retours une fois que j'aurai pu y jouer en fin d'année. La sortie est d'ailleurs prévue en décembre 2020 et vous sortira sur donc Xbox One, PS4, PC en matériel ou dématérialisé et également sur les futures consoles PS5 et Xbox One Series X, puisque c'est d'ailleurs le logo qui a été indiqué à la fin de la vidéo trailer. Voilà, donc grosse hype pour Assassin's Creed Valhalla. On attend de voir maintenant comment ils vont nous proposer avec des vidéos de gameplay, comment ils vont intégrer finalement le gameplay propre à la saga Assassin's Creed. Est-ce qu'ils vont continuer de s'en éloigner ou est-ce qu'au contraire ils vont essayer de faire revenir certains fondamentaux que l'on appréciait particulièrement à l'époque d'Altaïr et des dieux. Et j'espère que vous allez bien. On se dit à la semaine prochaine pour une future chronique sur Bandit Mafia, 101.5 FM, la radio qui fait le moins.
Bonjour à tous, c'est Héloïse en direct de Nantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler série. Je vais vous parler d'une série qui m'a beaucoup émue et que je trouve nécessaire, parce qu'en fait, elle apprend beaucoup de choses sur une religion dont en fait, je me rends compte que je connaissais rien. Cette série dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Unorthodox. Unorthodox, qui veut dire littéralement non-orthodoxe, c'est une mini-série dramatique allemande en 4 épisodes de 55 minutes, créée par Anna Winger et Alexa Karolinski, et qui est sortie le 26 mars 2020 sur Enix. Il s'agit de l'adaptation de l'autobiographie Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Acidic Roots, on juge pas mon accent anglais, de Deborah Feldman, qui est sortie en 2012. Donc Esther, en fait, c'est une femme de confession juive ultra-orthodoxe de 19 ans qui décide de fuir un mariage arrangé par sa famille à Williamsburg, qui est un quartier de Brooklyn, et elle part pour Berlin en Allemagne. Et après avoir appris sa grossesse, son mari décide, même s'il est conscient qu'elle était malheureuse dans son mariage, de partir lui aussi pour l'Allemagne avec son cousin dans le but de la retrouver. Malgré les difficultés, en fait, Estie, elle retrouve peu à peu son indépendance, son intimité, sa féminité. Et en fait, elle apprend à trouver sa place dans la société moderne. Et elle remet en question ses convictions, elle brise les règles et elle s'affranchit de sa famille. Et du coup, on va voir des flashbacks de son ancienne vie qui viennent expliquer son chemin de croix vers une libération. C'est une série en fait qui est percutante parce qu'elle se penche sur le pouvoir universel de libérer sa parole sur des sujets importants comme le mariage, l'avortement, la famille, la religion, la justice et la diversité. La série elle prend également aux tripes avec des scènes qui sont marquantes, donc comme celle où Estie elle récite une chanson yiddish alors que les femmes, elles n'ont pas le droit de chanter dans la religion ultra-orthodoxe. Et cette scène, on la prend comme un cri du cœur qui est libérateur. Donc je vais pas spoiler, parce que du coup, j'aime pas ça, donc je vais vous offrir une chronique sans spoil. Donc j'irai pas plus loin, mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a une mise en scène classique, il y a un casting impliqué, et il y a une histoire poignante. Et en fait, c'est Unorthodoxe, c'est une réussite. Et elle s'inscrit dans la lignée des mini-séries de qualité estampillées NX, telles que Dans le regard et Unbelievable que j'ai vu, qui traite du viol et qui est une série qui est dure mais qu'il faut absolument regarder aussi. De plus, je vous conseille de regarder après la série le making of, donc qui propose de raconter l'histoire de la création de la série et puis les coulisses du tournage. C'est tout pour moi cette semaine, et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt sur les ondes de Radio G.
Creature Shock Radio FM. Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série, c'est la série Love, qui est diffusée sur NX, série télé américaine, 34 épisodes de 30 minutes. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est une série créée par Judd Apatow, le grand réalisateur et producteur américain de comédie. Alors on est à Los Angeles, c'est l'histoire de deux trentenaires, Gus qui est professeur particulier sur le tournage d'une série télévisée et Mikey qui est programmatrice dans une radio par satellite. Ils sortent d'une relation difficile et leur rencontre va être très mouvementée. Très mouvementé parce que Gus est un homme sympathique et Mikey c'est une jeune femme effrontée et ils vivent des moments tour à tour euphoriques et humiliants d'intimité, d'engagement, d'amour et d'autres choses qu'ils auraient peut-être préféré éviter. Donc Love offre un regard assez désopilant, sans concession et douloureusement sincère sur les relations amoureuses d'aujourd'hui. Alors scénaristiquement parlant ça ne propose pas énormément de choses mais je trouve que c'est justement ce qui fait que la série est réussie. Elle mise avant tout sur la simplicité, la légèreté. Les personnages sont ultra attachants. L'actrice Gillian Jacobs est fabuleuse. C'est rafraîchissant, c'est drôle. Les dialogues sont parfois jouissifs. La réalisation est originale. Voilà, les acteurs sont talentueux, hein, je disais, loin des clichés habituels. Voilà, Love nous plonge dans ces moments si particuliers qui consistent à apprendre à connaître quelqu'un. Voilà, c'est touchant. C'est agréable, c'est léger à regarder. Puis on nous dépeint aussi quelques dures réalités rencontrées à Los Angeles. Donc épisode après épisode, on en redemande plus. Alors co-créateur de Love avec Judd Apatow, Paul Rust, qui joue Gus hein, dans la série, et Leslie Arfin ne sont pas seulement ceux qui ont inventé les personnages, le Gus et Mikey, hein, ils forment un couple dans la vie. Ils se sont mariés juste avant de lancer la série sur Netflix, donc on pense quand même que leur histoire a influencé le scénario. Et puis à l'origine, Paul Rust et Leslie Arfin ont proposé le projet Love à Judd Apatow, mais d'abord sous la forme d'un film. Et c'est ce dernier qui a encouragé le duo à repenser le projet en tant que série. Judd a aimé la relation et la dynamique entre les deux personnages principaux, mais il a pensé qu'un film ne permettrait pas d'explorer cela autant qu'il le voulait, raconte Paul Rust, donc le créateur de la série et acteur dans... Voilà. Avec Love, finalement, Judd Apatow, il produit son quatrième projet de série après Freaks and Geeks, Les années campus et Girls. Et pour cette première fiction diffusée par Netflix, il a en quelque sorte bouclé la boucle en retrouvant deux comédiens de Freaks and Geeks, Steve Banos et Dave Allen, qui jouaient en effet un petit rôle dans la série qui a lancé la carrière de James Franco en 99-2000. Voilà donc Love, une série très touchante, les personnages attachants, rire et émotion, une superbe rom-com geek.
Je me suis un petit peu replongé dans ma filmothèque. Il s'agissait pour moi de retrouver des films de science-fiction ou affiliés à la science-fiction que j'aime beaucoup et qui se regardent bien sur la confinement, puisque c'est un moment d'intense introspection, n'est-ce pas, où on se regarde soi-même, on essaie de retrouver son humanité quand on ne sait plus quel jour on est. Aujourd'hui, par exemple, écoutez, on est mercredi puisque c'est le jour de l'émission. Alors. Donc je vais vous donner plusieurs titres de films que je vous conseille chaleureusement de voir ou revoir dans cette période de confinement. Donc on va pouvoir s'intéresser à tout ça. On a iRobot, Imitation Game, Blade Runner et sa suite Blade Runner 2049. On a aussi Seul sur Mars de Ridley Scott, AI Intelligence Artificielle, 2001 L'Odyssée de l'Espace, Interstellar de Christopher Nolan, Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson, et enfin Ready Player One. Alors j'ajouterai pour terminer, on a la possibilité en plus de regarder, de se refaire évidemment l'intégralité des Marvel. Alors pour ça, il vous faut prévoir quand même 152 heures pour réaliser votre marathon Marvel. Alors le programme, on a tous les films depuis Hulk, Iron Man 1, 2, 3, Thor 1, Thor 2, Thor 3, tous les Avengers, les séries Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., etc. Bref, si on passe l'intégralité de tous les films du Marvel Cinematic Universe, plus les séries afférentes qui y sont reliées, vous en avez pour la bagatelle de 152 heures, soit environ 25 jours à raison entre 4 et 8 heures de films par jour. Voilà, ça vous fait un bon petit programme.
Radio G. www.radio-g.fr.
Sont les miens, certains m'ont laissé, je rajeunis pas. Je me souviens, plus jeune j'avais trop l'âge, je rajeunis pas. Je suis dans le 9-1, les deux pieds sur le siège, la tête est vers le ciel. Et dans le train, personne ne le sait, mais j'ai la gorge sèche, ouais c'est la fin. Viré du lycée, c'était le 5e, je roule un joint. Au point où j'en suis, y'a plus que ça qui aide et je suis pas bien. Quelques bouteilles d'alcool, on va s'enquiller, demain c'est loin. Je dormirai dehors et maman s'inquiète. 3h du matin, je pars chez ma. J'en pense à mes galères sur le chemin. Ils voulaient que je rentre dans leur schéma. Niquez vos mères, vous savez même pas ce qui se passe chez moi. Juste pour voir, viens faire un tour dans nos têtes. Juste pour voir, j'ai gratté mon premier texte. Juste pour voir, allez viens nous test. Juste pour voir, j'ai mes gavas sur le texte. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. J'm'amusais à tester les plus grands croix juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. J'm'amusais à tester les plus grands croix juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert. laisse. Parfois je fais des crasses. Moi comme tout le monde, j'avais des putains de rêves. Je voulais laisser des traces. Mais bon, la vie, c'est jamais comme tu veux, jamais comme t'as prévu. Je vends la peu, la détresse dans les yeux, tout comme si j'avais bu. Je suis pas content. À la rentrée, maman ne m'a pas pris ma paire. À 16h30, je commence à douter. Je n'avais pas de goûter. Je suis embêté, je peux même dire un pétard. Maintenant je suis entêté, en VTT. Le soir je rentre tard, le soir je rentre pété. J'ai des problèmes, j'en avais plein la tête. Je suis déscolarisé, le bien, le mal. Comprends que je fais les deux, je suis bipolarisé. Bah ouais, ma belle, c'est Paris dans la courbe. C'est Paris en nature, je fais peu la fête. Trop d'or sur la photo, trop de fois j'ai fauté. Je suis un ado, je suis un coche, je suis un homme. Et je ferai tout pour inverser la donne. Au fond de la classe, les deux pieds sur la table, les doigts sur le téléphone. Le cours de maths, je l'ai assimilé. Mais tu puis et les sommes.
À la base, j'ai commencé la musique juste pour moi. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands quoi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir. À la base, j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands quoi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir.
Qui tire les ficelles de la démocratie. Et moi je suis blanc, donc bénéficiaire de leur système raciste. Faut prendre des risques, je fais confiance au squat. Personne ne recompte ses parts. Ma chérie, on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Je suis un môme, je suis un boss, je suis un homme. Tu sais pas ce que je pense jusqu'au prochain album. Je fais des erreurs, plus jeune, j'ai pas toujours respecté les femmes. Je veux être un mec normal, j'ai du mal à rester près des femmes. Juste pour voir. Viens faire un tour dans nos têtes, juste pour voir. J'ai gratté mon premier texte, juste pour voir. Allez, viens nous tester, juste pour voir. J'ai mes gavas sur le texte.
Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G. Radio G, 101.5. Radio G, 101.5 FM.